France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série « Comment l'homme est-il devenu obsolète ?»
Es hat sich nichts geändert, denn die Totalgefährdung der Menschheit hat damals schon bestanden. Sie ist heute.
La situation n'a pas changé, car la menace totale qui pèse sur l'humanité existait déjà à l'époque.
Die Zahl.
Elle est aujourd'hui encore plus explosive parce que, premièrement, le nombre d'armes, si on peut encore appeler armes ces monstres terrifiants, le nombre d'armes a augmenté de manière considérable. Le nombre de détenteurs d'armes a augmenté et parce que, malheureusement, ces armes sont entre les mains de personnalités qui sont totalement limitées. Par limité, je n'entends pas, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, des personnes incapables de penser, mais des personnes incapables de se représenter quelque chose. C'est la limitation d'aujourd'hui qui est bien plus dangereuse que l'incapacité de penser.
C'est une philosophie de la technique qui constitue le fil rouge de la pensée de Günther Anders et ses réflexions sur la bombe atomique, centrale dans sa vie et dans son œuvre, nous en parlerons demain, en sont la conséquence. Au cœur de cette pensée, un grand œuvre, L'obsolescence de l'homme, dont le premier tome apparu en 1956 et le second en 1980. Et deux grands concepts, le décalage prométhéen et la honte prométhéenne. Comment penser la technique alors que ses effets comme moyens dépassent ses fins et ce que nous pouvons nous en représenter? Et comment penser la technique alors que son omniprésence s'immisce dans la moindre de nos actions et nos pensées? Ces interrogations, ce sont aussi les nôtres, et c'est bien la raison pour laquelle Günther Anders s'impose comme un penseur incontournable pour saisir la condition qui est la nôtre aujourd'hui. Vous venez d'entendre une archive rare, il s'agit d'une interview de Günther Anders pour la radio autrichienne datant du 7 août 1985. Cette interview, c'est vous qui nous l'avez fournie, Aresh Badescu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en philosophie à l'école doctorale Société, Espace, Pratique et Temps et de l'Université de Besançon, pardon, et votre travail porte notamment sur la philosophie du décalage chez Günther Anders, nous allons en parler. Et bonjour Édouard Joly.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en théorie des conflits armés et philosophie de la guerre à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et docteur en philosophie. Vous êtes l'auteur sur Günther Anders de Günther Anders, une politique de la technique qui est apparue en 2017 chez Michalon, et de Étrangers au monde, essai sur la première philosophie de Günther Anders qui est apparue en 2019 chez Classique Garnier, un ouvrage qui est issu de votre travail de doctorat. Dans l'archive que nous venons d'entendre, Günther Anders parle de l'incapacité des dirigeants à se représenter la puissance des armes qu'ils détiennent. Cette incapacité à se représenter les effets des outils techniques dont nous disposons, est-ce que c'est ça qu'il faut entendre par décalage prométhéen, Édouard Joly?
Alors la formulation la plus simple qu'on peut retrouver à plusieurs endroits dans son œuvre où il définit le décalage prométhéen, c'est cet écart, la discrépance ou... aussi penser à une chute entre notre capacité de produire, qui est de plus en plus titanesque, et notre capacité de représenter, qui reste malheureusement limitée. Donc nous ne pouvons pas nous représenter ce que nous sommes capables de faire dans la pratique. C'est comme, ce décalage, vous pouvez le décliner de plusieurs manières. Pour le reformuler, c'est un peu un décalage entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire que nous sommes capables, et là avec l'exemple de la bombe nucléaire, c'est le paradigme, nous sommes capables de causer des destructions dont nous n'avons aucune possibilité de nous représenter. Alors ça vaut pour la bombe nucléaire, mais c'est ce qui fait aussi toute la pertinence d'Anders dans le contexte des crises écologiques et environnementales, c'est que cette incapacité à nous représenter les conséquences des conséquences des conséquences de nos actions, on peut aussi la déplacer sur les questions écologiques et sur le fait que lorsque vous allumez la lumière, vous avez de grandes difficultés à vous représenter qu'en réalité vous êtes en train de produire le fonctionnement d'une centrale à charbon, des déchets nucléaires et toute la chaîne de production qui est déclenchée par votre geste. Et c'est là la pertinence et le cœur de sa thèse, c'est que nous vivons dans un monde où la facilité d'agir technique, qui nous donne une puissance de titan, qui est inédite dans l'histoire, en même temps nous condamne à cette faiblesse de la représentation et cette incapacité morale ou cet aveuglement moral qu'il thématise en particulier avec la bombe nucléaire.
Oui, il le dit d'ailleurs dans une très belle formule, nous sommes plus petits que nous-mêmes.
Voilà, c'est-à-dire que, mais vraiment, là on peut utiliser énormément de figures mythiques. Alors il utilise la figure de Prométhée qui est assez, assez classique.
Pardonnez-moi, je vous interromps, d'ores et déjà préciser la place de ce mythe et quel est exactement ce mythe, à quoi il se réfère précisément et pourquoi il choisit justement cette figure pour penser ce décalage.
Alors pour le dire en deux mots, mais je pense qu'on pourra en discuter justement, c'est Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Avant cette transmission du feu par Prométhée, les hommes sont une espèce soumise à la nature et qui, du coup, vivent dans la précarité, la difficulté, la survie. Le fait de donner le feu à l'homme lui donne une puissance, fait que Prométhée est condamné, d'abord pour ce crime, mais aussi donne aux humains la nécessité ou les contraint à s'organiser politiquement. C'est-à-dire que c'est un des aspects parfois qu'on a tendance à oublier dans le mythe de Prométhée, dans toute sa symbolique, c'est que de façon à pouvoir gérer correctement, collectivement, la puissance du feu, vous êtes contraint à vous organiser politiquement. Donc le mythe de Prométhée, c'est aussi une contrainte politique par rapport à une capacité technique.
Arèche Badescu, c'est pour ça que Günther Anders choisit ce mythe, pour cette articulation entre la question de la technique et, comme vient de l'expliquer Édouard Joly, de la faiblesse de l'homme et du politique.
Oui, absolument. Et de manière très intéressante, c'est aussi ce qui permet de donner au concept de décalage une extension encore plus importante, parce que dans les versions antiques du mythe, il y a le mythe du Protagoras chez Platon, sur lequel s'appuie Édouard Joly beaucoup, mais il y a aussi deux mythes prométhéens chez Hésiode, un dans Des travaux et des jours et un autre dans la Théogonie et aussi une version chez Eschyle. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mythe de Prométhée, c'est un mythe de la rupture. C'est un mythe de la rupture entre un état antérieur, celui où l'humanité effectivement n'a pas le feu et vit sous la domination, dans la soumission, non seulement face à la nature, mais aussi face aux dieux. C'est pour ça que le mythe de Prométhée sera aussi un mythe de la révolte. Et ensuite, par cet acte de Prométhée, le feu va lui être dérobé, et on a l'impression, et Prométhée lui-même, bien que son nom signifie celui qui voit l'avenir, celui qui peut se représenter, a l'impression qu'il fait un bienfait. Et en fait, tout cela a été prévu à l'avance par Zeus, qu'il a quand même laissé faire. Et en fait, ça va amener une série de catastrophes pour l'humanité. Et donc, c'est doublement intéressant. Pourquoi ? Parce que avant la rupture, l'humanité vivait dans un décalage, non pas par rapport au monde technique, ça viendra après, mais par rapport à son monde naturel. Un monde qui était incapable de subvenir à ses besoins. Un monde dont l'offre était largement inférieure à la demande de l'homme. Et ce décalage va être compensé, du moins en apparence, par le vol du feu, par le moment prométhéen. Et ensuite, il va y avoir un renversement et on va se rendre compte que le décalage va s'inverser. Et cette fois-ci, ce monde sera trop pour l'homme et effectivement trop en particulier pour ses capacités de se représenter.
Vous avez évoqué, Édouard Joly, la bombe atomique. Est-ce que c'est à partir de là que Günther Anders développe et déploie sa pensée de la technique, ou est-ce qu'il y a une pensée de la technique et du décalage prométhéen que nous venons d'évoquer qui précède, qui préexiste à l'événement de Hiroshima notamment et Nagasaki ensuite?
Alors, à ma connaissance, on peut trouver des formulations du décalage à la fin de Bezurim Hades, donc qui a été traduit par Visite dans l'Hadès, enfin dans d'autres endroits, mais aussi dans ses écrits d'anthropologie, où là, il va davantage parler de la technique au sens d'un art de production, et donc sans l'aspect contemporain. Disons que son œuvre très académique de la première partie de sa vie lui donne tout le matériau dans sa prise de position réciproque avec Heidegger, mais aussi avec l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer. Oui, il se situe dans une constellation de penseurs qui nous sont familiers. Eh bien, cette critique de la culture, cette pensée de la situation de l'homme dans le monde, se transforme après la Deuxième Guerre mondiale. D'abord par son expérience de l'exil, parce que bon, il échappe quand même aux camps de concentration et d'extermination, et aussi par la bombe nucléaire, parce que c'est un événement, disons, séminal pour lui, au point que dans la correspondance entre Arendt et Jonas, lorsqu'il parle de Anders, ils le décrivent comme quelqu'un de devenant fou. Mmh. C'est-à-dire que la bombe nucléaire, 1945, ça le fait complètement changer. Il refuse de continuer d'écrire dans un format académique et veut, du coup, toucher le plus grand monde et essayer d'expliquer quelles sont la source de ses craintes.
Mais est-ce que ça lui apporte aussi un changement d'ordre plus conceptuel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il change à partir de là sa conception de la technique ou est-ce qu'il y a une certaine continuité et que Hiroshima vient juste finalement confirmer ce qu'il avait déjà pensé ou déployé auparavant ?
Alors, je dirais que c'est pas forcément... il faut plus le voir comme une évolution. C'est-à-dire que dans la première partie de son œuvre, sa manière de thématiser le rapport de l'homme au monde, c'est l'étrangeté de l'homme au monde. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'être libre par rapport au monde dans le fait que lorsque vous pensez à vos actions, vous pouvez vous en dissocier. Enfin, c'est ce qu'il appelle la pathologie de la liberté, c'est-à-dire que vous comprenez que vous êtes libre dans le fait de constater que vous ne l'aviez pas été. Donc c'est une manière négative de penser la liberté et qui se traduit dans l'agir. Ce rapport au monde d'étrangeté qui conditionne, qui rend possible la liberté humaine, donc c'est une pensée de la liberté, hein, sa première partie d'œuvre, elle se transforme en perte du monde. Donc l'étrangeté au monde se transforme en risque de perte du monde après cet événement de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il se rend compte que nous nous aveuglons et nous produisons notre propre destruction. Donc cette étrangeté, cette liberté, se dévoie et finit par se retourner contre son possesseur.
Vous avez évoqué tout à l'heure Édouard Joly, Heidegger. Raraj Badescu, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui fait la particularité de la pensée de Anders sur la technique par rapport à tous les penseurs qu'a évoqué Édouard Joly, Heidegger, l'école de Francfort? On peut citer en effet également Jonas, on peut remonter aussi peut-être à Marx. En quoi est-ce qu'il déploie une pensée de la technique qui a quelque chose d'original et de particulier?
Oui, ça fait beaucoup de références. Je vais peut-être laisser Édouard Joly répondre sur Marx, me concentrer sur Heidegger. On fait une division du travail.
Allez, on fait comme ça.
Alors, Anders a été l'élève d'Heidegger. Ils avaient plusieurs raisons de se détester, des raisons professionnelles, des raisons personnelles aussi. Dans Être et Temps, donc un texte publié par Heidegger en 1926 ou 1927, je ne sais plus exactement, il y a quelques pages sur la technique, mais ça ne parle pas vraiment de la technique. En fait, ça parle d'un rapport qu'entretient le Dasein, c'est-à-dire en gros l'humain, à son monde, et qui est médiatisé par des outils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les outils fonctionnent comme un système de renvoi aux différentes parties du monde. Mais il n'est pas du tout question ni de production, ni de technique au sens contemporain. Anders va s'en souvenir et il va publier un texte vraiment acide qui s'appelle « Sur la pseudo-concrétude de la philosophie de Heidegger », dans lequel il va lui reprocher. Il va lui dire « Écoute Heidegger, c'est parfaitement admirable ce que tu racontes, mais c'est complètement faux. Pourquoi ? D'abord parce que tu ne prends pas en compte le caractère productif de la technique. Pour toi, la technique, c'est juste un système de renvoi, donc on reste dans le domaine du signe. Et en plus, parce que tous tes exemples sont obsolètes. En gros, tu nous parles de l'atelier du cordonnier de province, alors qu'on produit déjà des chars, etc. » Mais de manière très intéressante, il retient quand même quelque chose d'être étant, et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de traiter la technique comme un système d'outils. Bon, le conflit n'est pas terminé. 1953, Heidegger revient timidement sur la scène, après son passé un peu noir, on va dire. Il fait une conférence très célèbre, La question de la technique, 1953. Et là, de manière très étrange, on ne sait pas s'il a lu le texte d'Anders, je ne pense pas, c'est très improbable, mais il va d'une certaine manière répondre aux critiques d'Anders. Pourquoi ? Parce qu'il va actualiser ses exemples, il va parler d'un barrage sur le Rhin, bon, certes dans une comparaison avec un moulin à eau, mais quand même, et il va prendre en compte le caractère productif de la technique, même si c'est pour après en arriver à la révélation de la vérité. Et Anders va enfin critiquer la conférence de 53 dans l'obsolescence de l'homme en 56, en disant « c'est toujours très admirable, mais en revanche, tu as dit quelque chose de complètement faux ». Tu penses que le danger de la technique est un danger uniquement pour l'essence de l'homme. Moi, je pense que c'est un danger aussi et surtout pour son existence.
Et c'est vrai, Édouard Joly, que les exemples que prend Günther Anders sont particulièrement actuels, même pour nous. Vous venez de dire à Raj Badescu qui reprochait à Heidegger des exemples un petit peu obsolètes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exemple qu'il prend, le cinéma en 3D, on en reparlera dans notre cinquième épisode, Computing machine, les ordinateurs, en fait, enfin, il prend des exemples qui nous parlent de manière particulièrement actuelle.
Oui, c'est ce qui fait la pertinence des penseurs de la technique. Ça les contraint automatiquement à penser leur actualité, puisque nous sommes toujours dans une époque de transformation technique et technologique, donc d'application de la science aux techniques, qui fait que cette obsolescence dont il parle, on a l'impression d'y baigner. Alors pour conceptualiser cette obsolescence avec, disons, un fond marxiste, l'obsolescence peut se définir comme à partir de la distinction marxiste entre valeur d'usage et valeur marchande, donc valeur commerciale, valeur d'échange. La valeur d'usage, lorsqu'on est obsolète, c'est qu'on n'en a plus, on ne sert plus à rien. On ne parvient plus à démontrer notre utilité sociale, dans le travail. Donc évidemment, toute son analyse du travail, elle est dans cette époque des années 60, ou très marxiste. Mais on a toujours éventuellement une valeur d'échange esthétique. Il faut entendre obsolescence, alors c'est Antiquwert en allemand. Il y a plusieurs traductions possibles. On peut imaginer vraiment comme une antiquité. On est vendu dans un magasin, on est obsolète et on va l'acheter par nostalgie. Mais aussi on peut penser à désuet. Désuet, ça a un charme désuet, c'est... Voilà, donc on fait un peu de la philosophie. On pourrait même aller jusqu'à dire que la philosophie est un peu obsolète. On en fait parce que c'est un art désuet de la pensée, mais qui est un peu suranné.
Qui a un peu de charme quand même.
Un peu, mais qui reste charmante. L'obsolescence, c'est la traduction peut-être la plus ferme de la terminologie. Ça veut dire qu'on ne sert plus à rien. Et c'est là qu'il utilise des exemples les plus durs. C'est-à-dire qu'on est les chômeurs, les rebuts, l'exclusion. Donc derrière cette pensée de la technique... conjointement avec cette critique de Heidegger et ce petit fond marxiste, on a aussi une critique sociale et du fait que notre politique est conditionnée par notre rapport technique au monde.
Alors je vous propose justement qu'on y vienne en écoutant un texte extrait de L'obsolescence de l'homme qui porte sur ce deuxième concept que nous avons évoqué, la honte prométhéenne.
Ce matin, je crois bien avoir découvert la trace d'un nouveau motif de honte, encore inconnu dans le passé. Pour le moment, je l'appelle la honte prométhéenne. Et j'entends par là la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. J'ai visité avec T une exposition technique que l'on venait d'inaugurer dans le coin. T s'est comporté d'une façon des plus étranges, si étrange que j'ai fini par l'observer, lui, plutôt que les machines exposées. Dès que l'une des machines les plus complexes de l'exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s'est tu. Le tableau ne présentait aucune ambiguïté. Les choses qu'il trouvait exemplaires, supérieures à lui, et qu'il considérait comme les représentantes d'une classe d'êtres plus élevée, jouaient réellement pour lui le même rôle qu'avaient joué pour ses ancêtres, les personnes incarnant l'autorité, ou bien les milieux considérés comme plus élevés. Dans sa balourdise physique, dans son imprécision de créature, devoir rester là, debout, sous le regard de cet appareillage parfait, lui était réellement insupportable. Il avait vraiment honte. Si j'essaie d'approfondir cette honte prométhéenne, il me semble que son objet fondamental, l'opprobre fondamental qui donne à l'homme honte de lui-même, c'est son origine. T a honte d'être devenu, plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence, à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails, au processus aveugle, non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance. Mais s'il a honte du caractère obsolète de son origine, il a bien sûr également honte du résultat imparfait et inévitable de cette origine, en l'occurrence lui-même. L'homme qui est confronté pour la première fois à une computing machine, au travail, est éloigné de tout sentiment de fierté et de maîtrise. Le spectateur qui s'exclamerait « Bon sang, quel sacré type nous sommes pour avoir fabriqué une pareille chose !» ne serait qu'un plaisantin. Il chuchotera plutôt en hochant la tête « Mon Dieu, quelle machine !» et se sentira très mal à l'aise, à demi épouvanté et à demi honteux, dans sa peau de créature.
France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
C'était une lecture par Jules Barbier d'un extrait de L'obsolescence de l'homme, le tome 1, sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle de Günther Anders, sur la honte prométhéenne. Ce texte est extrait du journal de Günther Anders, c'est une entrée de mars 1942, et ça nous permet par ailleurs de dire qu'on retrouve là aussi cette plume d'Anders, cette manière, vous l'avez évoqué Édouard Joly, de d'écrire d'une manière qui n'est justement pas académique. On comprend très bien ce qu'il nous explique là, les descriptions sont parfaitement parlantes. Raresh Badeshkou, qu'est-ce que c'est que cette honte alors, prométhéenne, dont il est question ici?
Cette honte prométhéenne, c'est la honte qu'éprouve l'homme devant la perfection de ses machines relativement à ses propres capacités. C'est, comme dans l'extrait de journal qui a été lu ici, une honte face à ce que peuvent faire les machines et que nous, individus humains obsolètes, nous ne pouvons plus faire. Ce qui est déterminant dans cette honte prométhéenne, c'est qu'en fait, elle reprend une autre conception de la honte qui était déjà à l'œuvre dans l'anthropologie philosophique de jeunesse, qu'Édouard Joly avait évoqué tout à l'heure. Dans la pathologie de la liberté, la honte joue un rôle déterminant dans la phénoménologie de l'esprit, la quête de la conscience malheureuse de l'esprit nihiliste. La honte, c'est le moment où l'individu n'arrive pas à s'identifier à lui-même. Pourquoi ? Parce que l'individu aimerait bien être libre, aimerait bien être détaché du monde, et pourtant, quand il cherche à s'identifier en lui-même, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve son origine, c'est-à-dire le fait d'être né, le fait d'être là, et d'être né de manière totalement contingente. Et ça s'oppose à ce qu'il aimerait bien, c'est-à-dire avoir été créé lui-même. Or, qu'est-ce qui a été créé ? Pas par lui-même, mais par les hommes, du moins au début, les machines. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce motif de la honte qui court des textes des années 20-30 jusqu'ici avec un même objet pour cette honte, l'origine.
On retrouve aussi dans ce texte ce qu'évoquait tout à l'heure Raj Badescu, c'est-à-dire le fait que la technique, c'est d'abord un moyen de production d'objets qui nous entourent, qui nous dépassent, de surproduction. Édouard Joly, ça correspond à la deuxième révolution industrielle, à la manière dont Günther Anders pense la deuxième révolution industrielle, cette dimension de production qui est liée aussi à la consommation, du coup, on peut le dire comme ça ?
Oui, dans sa deuxième révolution industrielle, c'est celle où on est face à un appareil, mais l'appareil reste néanmoins dépendant de la présence de l'homme pour fonctionner. Alors sa conception de la technique, elle est assez originale. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une technophobie. C'est-à-dire que parfois, c'est une mauvaise lecture qu'on peut avoir d'Anders. Ce n'est pas un technophobe. Il le dit lui-même dans certains entretiens. Il ne veut pas dire que la technique, c'est mal. Mais ce n'est pas un technophile non plus. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire que à un problème causé par la technique, on va trouver une autre solution technique. Et il n'est pas non plus neutre. La neutralité par rapport à la technique va consister à dire que tout dépend de la finalité avec laquelle on va employer le moyen dont on dispose. Lui, il pose la question de savoir si les objets techniques que nous produisons ont une finalité qui peut potentiellement causer de la destruction. C'est-à-dire qu'il a une granulosité ou un raffinement dans son analyse de la technique qui n'a pas de présupposés moraux par rapport à l'usage qu'on va faire des objets, des machines. Ce qu'il nous dit, donc, et là, ça transparaît très bien dans cet extrait qu'on a entendu, c'est que la technique dépend de la situation que l'homme va entretenir avec les machines qui l'entourent. Et ici, ce qui fait évidemment toute la pertinence, on est en 1956, il parle déjà des ordinateurs.
Incroyable.
Donc on voit déjà toute cette non pas une préscience, mais c'est ce qu'il détermine aussi dans le second tome de l'obsolescence de l'homme. Il en fait des remarques méthodologiques. Il s'intéresse au décryptage, à la compréhension des tendances, des évolutions. En fait, il fait de la prospective. Et pour faire de la prospective, il utilise aussi la fiction. C'est-à-dire que là, le honte prométhéenne, dans une note de bas de page du second tome de l'obsolescence de l'homme, il avoue que c'est une fiction. Il a aussi écrit un roman, il a écrit des fables, il a cherché à faire varier sa pensée dans tout un tas de styles littéraires, parce qu'il pense, et je suis assez d'accord avec lui, que la philosophie peut se communiquer par tout un tas de styles, par tout un tas de genres littéraires, et non seulement le style aride des boulangers qui produisent du pain pour d'autres boulangers, nos articles académiques si difficile à lire.
Oui, on peut même dire qu'il pense qu'elle doit se décliner dans différents styles.
Ah, il va jusqu'à même dire que, c'est dans ses archives que j'avais lu ça, qu'il n'a même plus le temps de lire parce qu'il veut écrire, parce qu'il sent cet impératif moral de transmettre le plus possible, au plus grand nombre, cette analyse de la technique.
Alors, il faut qu'on en vienne maintenant au thème principal de notre émission, ou en tout cas au concept principal, c'est-à-dire l'obsolescence. Qu'est-ce que ça signifie que l'homme est devenu obsolète, que c'est l'homme qui est obsolète ? Nous sommes habitués à parler d'obsolescence programmée pour les objets. En quoi est-ce que c'est l'homme qui est obsolète, Raj Badescu ?
Alors, Édouard Joly a commencé à en parler tout à l'heure un peu sur la discussion autour de Marx. C'est un concept qui est très intéressant parce que je pense qu'on peut le décliner selon les trois révolutions industrielles. Là, on est dans la deuxième, c'est la production de besoins. Chaque révolution industrielle va agir comme une sorte d'accentuation de cette obsolescence, qui agit elle-même comme une accentuation des décalages prométhéens. Dans la première révolution industrielle, c'est une obsolescence pour la production de produits, c'est-à-dire en gros le travail. Et l'homme devient obsolète, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut produire moins que les machines qu'il a lui-même créées. Les machines, elles n'ont pas besoin de se reposer, elles n'ont pas besoin de prendre de vacances. Quand elles sont cassées, on peut les réparer, c'est pas très difficile. Voilà, donc première révolution industrielle, on a l'obsolescence par rapport à la production de produits, au travail. Deuxième révolution industrielle, tous ces produits, il faut bien qu'ils soient écoulés, il faut bien qu'ils soient consommés. Donc, on va avoir une seconde obsolescence, l'homme ne peut plus consommer tous les produits qu'il a produits. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de produire non plus des produits, mais de produire des besoins. Et ça, c'est ce qui se fait par l'intermédiaire de la publicité. Donc, deuxième révolution industrielle, obsolescence par rapport à la consommation, à la production de besoins.
Et pardonnez-moi, je vous interromps juste une petite seconde. C'est là, pour le coup, on retrouve quelque chose qui est proche de ce que nous, on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire cette idée qu'il faut que les objets soient consommés très rapidement pour pouvoir justement absorber cette production démesurée de produits.
Absolument, c'est tout à fait vrai. Et en plus, ça fait une transition merveilleuse vers la troisième révolution industrielle. Et là, c'est le chaos le plus total. Qu'est-ce qu'on produit dans la troisième révolution industrielle ? On produit des cadavres. La troisième révolution industrielle, c'est celle de la destruction. Et en quoi l'homme est-il obsolète ? Où vient jouer le décalage dans cette troisième révolution industrielle ? C'est lié à quelque chose que Günther Anders appelle le platonisme industriel. Pour le dire en deux mots, il existe un exemplaire des produits, si bien que même si l'on détruit tous les produits existants, on pourra quand même en créer de nouveaux à partir de cet exemplaire. Donc les machines, en tant que série, sont immortelles. Thèse qui est peut-être empiriquement fausse, mais peu importe. Alors qu'il n'existe pas une idée d'homme, il n'y a pas de troisième homme, et par conséquent, l'homme, sous le rapport de la destructibilité, est destructible et peut être amené complètement à disparaître. La question maintenant, pour articuler la philosophie de la fin du monde et celle de la technique, c'est de se demander si dans le cadre de l'autonomisation de la technique, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt technique à la disparition de l'homme, c'est-à-dire est-ce que cette destruction vise vraiment les êtres humains ou est-ce qu'elle ne vise pas plutôt les produits ? Et c'est là où on rejoint ce que vous venez de dire sur l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que la destruction en fait qui a l'œuvre dans la troisième révolution industrielle, elle, c'est aussi celle des produits pour qu'ils puissent être remplacés par de nouveaux exemplaires plus performants et donc pouvoir nourrir le processus de production.
Et c'est là où on voit, Édouard Joly, pour terminer, en quoi est-ce que ce concept d'obsolescence unifie tout, en fait, la Shoah, Hiroshima, la technique, puisque cette destruction de l'homme dont vient de parler Raj Badescu, c'est ce qui est commun, finalement, à l'histoire du XXe siècle.
Oui, ce qu'il nous dit, c'est que, finalement, par cet aveuglement face à notre puissance technique, si nous ne développons pas une politique adéquate, nous sommes pris en quelque sorte entre deux tragédies, ou c'est un dilemme tragique, entre la possibilité permanente de la destruction par la bombe nucléaire, si les politiques de dissuasion ne sont plus efficaces, ça nous vivons en plein dans ce contexte-là à l'heure actuelle, mais nous avons aussi un autre type d'apocalypse, et qui est là aussi une conséquence de l'aveuglement par rapport à la technique, c'est la destruction, l'effondrement environnemental. Donc, ce qui fait toute la pertinence d'Anders, c'est de nous mettre face à ce risque de destruction nucléaire et ce risque de destruction environnementale dans lequel nous sommes. Et là, pour le coup, la réponse, il ne l'a pas, il ne la donne pas. C'est à nous de l'inventer, c'est à nous de trouver les réponses politiques au dilemme auquel nous met face.
Merci beaucoup à vous deux, Édouard Joly et Raj Badescu. On retrouve toutes les références de vos écrits sur les pages de notre émission. Merci à Daphné Leblon à la réalisation, Jules Barbier à la préparation de cette émission et Noé Chaban à la technique. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France. Et demain, nous poursuivrons notre parcours dans la pensée de Günther Anders en nous intéressant à ses réflexions sur la bombe atomique, précisément en compagnie de Bruno Villalba. À demain.